Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série. Ils sont déchaînés ce soir. Saison 2, épisode 38. Une Heure en Série, l'émission qui chaque semaine décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes et plateformes confondues. Et ce soir, nous parlerons Polar en eau trouble et petits secrets entre voisins avec Mare of Easttown, pardon, sur OCS. Basket féminin et seconde chance avec Big Shot sur Disney+. Et enfin, Walter PPK et Vodka Martini au shaker, bien sûr, dans Fleming sur Arte.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, les très peu secrets agents de la critique. J'ai nommé Isabelle Danel de bandeapart.fr. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
La très studieuse Christine Haas, elle continue à prendre des notes et tout. C'est trop tard Christine, maintenant il va falloir y aller quand même. Oui. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Et évidemment l'indispensable Benoît Lagan, le 5-7 de Mathilde Munoz et Télématin.
Bonsoir Xavier, bonsoir à toutes et à tous.
Oui, il est très calme là. Oh, parce qu'il était déchaîné juste avant. Donc, alors on a un petit peu de courrier, un courrier qui nous vient de Bruno Errante. Hello la team série. Il revient sur The Goes Wrong Show, qui est une série britannique qu'on a déjà un tout petit peu recommandée, effectivement, grâce à nos auditeurs. C'est visible en VOST sur Prime. C'est vrai que c'est terriblement hilarant. C'est Elsa Poppin, version série télé, c'est-à-dire que c'est le principe du gag en cascade évidemment hilarante. Eh bien, Bruno est d'accord avec nous. Quel pied ? Oh oui, avec trois points d'exclamation, c'est-à-dire s'il aime. Entre les Monty Python, y a-t-il un pilote dans le théâtre et c'est fabuleux, quel bonheur. Bref, c'est vous les professionnels, vous en parlerez mieux que moi, mais nous vous en parlez très très bien, cher Bruno. Il nous embrasse, même s'il sait que c'est interdit, précise-t-il dans la parenthèse, mais nous aussi, on vous embrasse. Qu'importe le masque, évidemment, cher Bruno, nous vous aimons beaucoup. Alors, j'ai un courrier de Tanguy. Alors déjà, je ne l'aime pas. Il habite Londres. Non, il faut quand même dire les choses un tout petit peu. Il a 36 ans, se croit-il obligé de nous préciser dans son mail. Il lisait Christine Haas quand il était jeune. Ça ne nous rajeunit pas. Mais il a pour lui d'adorer Mylène Farmer. Ah. Et donc, nécessairement, c'est quelqu'un de bien. Il a même pleuré au concert de 2006, avant que l'ombre. Moi aussi, j'ai pleuré. Cher Tanguy. Bon, bref, ceci mis à part. Oui. On recommande quand même la série Schitt's Creek, uniquement pour Catherine O'Hara et sans rien en attendre, nous dit-il, quand il a commencé à la regarder. Mais en fait, c'est un bijou de comédie absolument hilarant qui me fait mourir de rire comme jamais avant. Et la série est de mieux en mieux au fur et à mesure des saisons. Elle a raflé plein de prix. Et pour la dernière, j'ai découvert avec stupeur, un ami dit-il, qu'elle n'était toujours pas disponible en France. Stupeur, c'est un ami puisqu'il a mis une majuscule. Auriez-vous des nouvelles ? L'avez-vous vu ? Love from London. C'est pas la peine de rajouter, cher Tanguy. Elle va débarquer sur Canal, cette série. Voilà. Alors Isabelle, vous faites l'amour, vous
n'êtes
pas...
Oui, je lui laisse, effectivement, moi j'ai canné très très vite.
Moi je m'en fous, il a Mylène, donc je vais l'aimer. Voilà. Voilà. Ne nous fâchez pas avec les auditeurs, chère Isabelle.
Non, mais vous avez raison, tout ce qu'on aime, on a toujours raison d'aimer.
Toujours. Premier débat, Mare of Easttown, une série américaine en 7 épisodes diffusée sur OCS à raison d'un épisode par semaine, ce qui va expliquer que nous n'en avons vu que les premiers à ce jour pour nourrir ce débat. Mare Sheehan habite Easttown, une bourgade sans charme réel de l'Amérique profonde, climat pluvieux, brouillardeux. Elle n'est pas du genre à sourire, Mare. Il faut dire qu'entre un ex-mari qui, à la veille de se remarier, n'a pas daigné l'inviter à sa soirée de fiançailles, un fils décédé quelque temps auparavant, lui laissant lui-même un fils que sa mère, une ex-toxico, essaie de récupérer. Bon, vous avez bien compris que c'est peu dire que la vie de cette policière ne respire pas la franche gaieté. La série commence lorsque le corps d'une adolescente est retrouvé sur les rives de la rivière du coin. Un crime déjà sordide, mais qui va peu à peu faire remonter à la surface quelques-uns de ses secrets inavoués qui pollue de l'intérieur la vie apparemment tranquille du village. Village encore hanté par le spectre de la disparition irrésolue d'une jeune fille. Pugnace, revêche, nullement diplomate et même capable de transgresser l'éthique policière, Mare va tenter de découvrir la vérité.
What's your name?
Mare.
Give it up for Miss Lady Hawk herself!
Why do they call you Lady Hawk?
I made a shot in a basketball game 25 years ago.
They think you're a hero.
Oh, I love it. Look at that.
Must have been some shot.
Most places, no. Around here, yeah.
What do you do, Mayor?
I'm a detective.
A detective?
You don't have any bodies hidden under your porch, do you?
Not yet, no.
The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
Get this, son of a bitch. Who did this? Because if you don't, I'll kill him myself.
une série produite pour HBO par Brad Inglesby avec la toujours parfaite Kate Winslet, mais également Julianne Nicholson, qui est une comédienne que j'aime énormément et qu'on voit, je trouve, trop rarement. Jan Smart, qui est absolument génial aussi. Et Evan Peters, côté distribution, c'est impeccable. Côté de la presse, pour les Inrocks, cette mini-série vaut surtout pour son efficacité et son personnage féminin. Le Point vante la réussite de cette série, je les cite, au croisement entre thriller féministe, mélodrame abyssal et étude des mœurs contemporaines. Et puis, j'ai trouvé un papier signé par une petite nouvelle qu'on aime bien, Isabelle Danel, dans Bande à part, qui nous dit l'histoire américaine d'aujourd'hui menée tambour battant par Kate Winslet, rude et terrienne, simplement extraordinaire. Isabelle, vous confirmez?
Oui, oui.
Vous n'avez pas changé d'avis entre temps?
Non, j'ai pas changé d'avis. J'attends la fin avec une impatience non dissimulée.
Effectivement, on peut tous le dire, oui. On en discutait tout à l'heure.
On n'a pas tout vu. Oui, moi, je trouve que c'est une grande, grande réussite. Alors, c'est ce polar centré sur la disparition de jeunes filles, comme vous avez dit, mais c'est surtout une série qui fonctionne sur l'ambiance, sur les personnages, et de l'ambiance il y en a, et des personnages il y en a. C'est-à-dire qu'il y a un monde fou dans cette série, et tout le monde se connaît depuis des siècles. Toutes les amies, et aussi d'ailleurs toutes les ennemies de mère, cette lieutenant de police, donc, qui est la figure pivot comme ça du récit, et toutes ses amies, toutes ses ennemies étaient avec elle au lycée et ont donc assisté. Alors on l'entend dans la bande-annonce qu'on a entendue, que nous a concocté Marie-Annick, mais c'est en anglais malheureusement. Mais donc elle s'appelle Lady Hawk parce qu'elle a fait partie de l'équipe de basket de son lycée et qu'elle a marqué un but formidable pour la région, comme elle le dit à un moment donné, mais pas mémorable pour à l'échelle de l'Amérique. Et donc voilà, c'est ça, c'est cette impression que tout ça est très confiné, sans faire de jeu de mots avec la situation actuelle, que tout ça est très replié sur soi-même.
Ah, ça mijote dans le jus des rancœurs, des jalousies, des désillusions.
Et il y a donc il y a des fantômes, il y a des spectres, il y a quelque chose du mal qui plane toujours. Il y a quelque chose, je trouve, de King, de Stephen King dans la description de cette Amérique-là, qui est une Amérique oubliée, qui est une Amérique désolée. Il y a du chômage, il y a de l'alcoolisme, il y a de la drogue, il y a des pathologies. Enfin, bon, c'est chargé hein, en termes de
c'est pas la petite maison dans la prairie.
Voilà, c'est pas la série préférée de Benoît. Mais voilà, c'est quelque chose de très très bien écrit, parce que Inglesby, qui est un réalisateur et un auteur de cinéma, notamment dans Les Brasiers de la colère, où une mère américaine, où déjà il y avait une grand-mère qui s'occupait de son petit-fils, et quelqu'un qui arrive comme ça à faire exister un cœur de personnages. Et il y a donc toutes ces forces en présence, toutes ces colères aussi, toutes ces rancœurs qui ressurgissent petit à petit. Et bien sûr, on s'intéresse à l'intrigue, et Dieu sait que là où nous a laissé le dernier épisode qu'on a vu, on a vraiment envie de savoir la suite. Mais ce qui compte aussi, c'est comment ces gens vont retrouver le chemin de l'un vers l'autre, vers peut-être plus de calme, plus de douceur et plus d'amour. Donc c'est aussi de ça.
C'est vrai que c'est pas gagné, là où nous en sommes arrivés pour l'instant.
Pas tout à fait gagné.
Benoît, à propos de Mare of Easttown.
Oui, je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Isabelle. Et c'est vrai qu'on a vu 5 épisodes, hein, donc pour l'instant. Donc 5 sur 7, malgré tout, ça nous laisse dans un suspense. Mais tout ça pour dire que sur les 5 épisodes que l'on a vus, l'enquête elle-même avance très lentement. Et puis, c'est pas grave, en réalité. Tout tient, en fait, dans le titre de la série Mare. Donc, le personnage de Mare of Easttown, la ville d'Easttown. En fait, voilà. Et si on tient sur le titre de la série, ça dit presque tout de ce projet. Moi, c'est ce que j'aime dans les séries que HBO peut proposer en ce moment, c'est quand elle décide d'arrêter de sortir de la série de concepts ou dans des univers forcément plus blockbuster, et qu'elle se revient à peut-être ce qu'a su faire et sait faire très bien, par exemple, le polar anglais depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on est dans ce polar social. Effectivement, l'univers de Stephen King, mais sans le côté hyper thriller où le fantastique vient s'immiscer, en restant vraiment sur cette famille, ce monde ouvrier, cette Amérique, comme tu le disais très bien, qui n'est peu ou pas assez montrée à la télévision et dans les séries américaines. Donc voilà, tout tient grâce à la force de ce personnage. Kate Winslet est parfaite, mais les seconds rôles sont parfaits aussi. Et la force d'une arène, parce que c'est ça une grande série, c'est un personnage et une arène. Et cette arène d'Easttown, il y a tout qui nous permet de rentrer. Voilà, j'ai envie de savoir la suite, la fin de ces 7 épisodes, et espérer peut-être que ce personnage revienne même dans d'autres enquêtes, tellement je trouve ils ont décrit ce personnage et ce monde avec perfection.
Je suis entièrement d'accord avec vous, Christine Haas.
Que dire de plus, si ce n'est qu'effectivement, c'est à la fois une enquête et une étude de caractère, et que Kate Winslet, on ne dira jamais assez à quel point c'est une grande actrice de composition qui n'est jamais dans la performance. Et il faut quand même préciser que si dans la vie, elle est ravissante, ici, elle déploie un certain laisser-aller. Hein, elle est vêtue d'un sac informe, avec des racines de vieux blond jusqu'à la moitié du crâne.
Elle fait rien pour céder, oui.
Voilà, elle bouffe du fromage en tube, uniquement de la junk food, elle picole, elle porte comme une seconde peau son mal-être et le poids de son échec professionnel. Bref, à chaque fois qu'elle tire un fil de l'enquête, elle présente de nouveaux suspects potentiels. Et plus elle enquête, plus on découvre l'envers de la ville, les mensonges, les faux-semblants. Et en même temps, sa propre vie semble déraper inéluctablement sans qu'elle puisse la contrôler. Finalement, on est dans l'exploration intelligente d'un cataclysme individuel et sociétal, au cœur d'une sorte de toile d'araignée où les habitants d'Eastham ne connaissent rien d'autre que la mentalité d'une petite ville. Et en fait, il est assez rare de voir le portrait d'une classe ouvrière aussi accomplie et réaliste, avec un tel sens du détail et du rythme. Tout sonne juste et vrai, mais sans misérabilisme. Et effectivement, tout le monde gravite autour de Winslet. Et une actrice un peu moins douée qu'elle aurait pu rendre son personnage franchement antipathique. Hein. Elle peut être cruelle, froide, pas toujours très intègre. Mais finalement, la série nous fait comprendre pourquoi on la prend en sympathie. Et trop de douleurs, de choses désagréables finissent par déteindre sur elle. Ça rend pas son comportement toujours acceptable, mais il le rend compréhensible. Donc ce qui est plaisant dans cette série, c'est aussi que c'est une réflexion sur le destin. C'est presque un thriller métaphysique où le regard est à la fois empathique et féroce.
Et toute star qu'elle est, tête d'affiche qu'elle est, elle partage remarquablement l'écran avec les autres comédiennes et comédiens. Mare of Easton sur OCS.
Je n'ai pas attendu les jours de canicule pour sentir nos corps qui brûlent, nos langues en feu, mon prince, mon Dieu. J'entends nos membres qui crépitent du feu de la dynamite. Soyeuse nous inonde, j'entends nos cellules qui frémissent.
en un éclair s'éclipse. Je n'ai pas attendu les jours de canicule pour sentir nos corps qui brûlent.
Péché s'accumule par Françoise, avec un Z, Breut, extrait de Flux fou de la foule. Oui, j'ai pris mon temps pour éviter quand même. Album sorti en avril dernier, entre rêves érotiques et sombres réalités crues, cauchemars et fables, sursauts de vie et d'espoir, j'ai continué à observer avec une certaine distance un monde que je comprends de moins en moins, a déclaré la chanteuse à propos de ce nouvel album. Exquis retour en grâce pour cette chanteuse née à Cherbourg, comme quoi tout est bon à Cherbourg. Hein. Les parapluies comme les chanteuses, un titre où la voix discrète dans ses aigus affirmés joue avec la musicalité des mots, leur rythmique et leur sonorité pour un titre tout en volutes éthérées.
France Inter. Une heure en série.
Et petit conseil littéraire en écho à Mary of Easton, 8 crimes parfaits de Peter Swanson, paru aux toujours excellentes éditions Gallmeister. J'avais envie de vous proposer de plonger dans ce petit précipité savoureux de polar en forme d'hommage érudit et gourmand à quelques immenses classiques de la littérature noire. Libraire sans histoire, spécialisé dans les romans policiers, Malcolm est approché par une agente du FBI qui enquête sur des morts étranges qui titillent sa curiosité, des décès sans rapport les uns avec les autres, dont certains pourraient n'être même que de banals accidents, mais auxquels elle prête un tout autre sens. Et si elle approche notre héros, c'est qu'il a publié autrefois sur Internet la liste des 8 livres décrivant le plus justement possible, selon lui, l'exécution du crime parfait. James McCain, Ira Levin, Donna Tartt ou encore Agatha Christie y figurent, et les modes opératoires inventés par ses auteurs et autrices pourraient avoir inspiré ce criminel de l'ombre que l'enquêtrice et Malcolm vont essayer de débusquer. Mais comme dans les meilleurs polars, la solution touche peut-être de très très près cet anonyme vendeur de livres au passé plus sombre qu'en apparence, un passé qui pourrait servir de fil conducteur à cette succession de meurtres, je n'en dis pas plus, un hommage plus que réussi en forme de puzzle morbide et délétère qui joue avec les classiques pour mieux se les accaparer et leur conférer une toute nouvelle jeunesse. 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Gallmeister. Deuxième débat de la soirée, Big Shot sur Disney+, diffusé depuis le 16 avril. Là aussi, un épisode par semaine, donc nous n'avons vu que les 5 premiers. Il aura suffi d'une simple petite chaise pour briser net la carrière du plus réputé des entraîneurs de basket américain. Bon, il faut préciser que la dite chaise a atterri sur la tête d'un arbitre dont notre colérique héros contestait la décision. Convoqué par sa hiérarchie, il redoute le pire, c'est-à-dire passer de la première à la troisième division. Et c'est encore plus cauchemardesque, du moins selon ses réflexes, un rien macho. Le voilà non seulement suspendu de toutes ses fonctions, mais invité fermement à aller entraîner une équipe de lycéennes dans un établissement privé de la côte ouest. Et ce père, divorcé et assez maladroit avec sa fille, va devoir apprendre à gérer une douzaine d'adolescentes, parmi lesquelles l'héritière est donc intouchable du plus généreux donateur du lycée.
Marvin Korn quitte l'université du Wisconsin et se retrouve dans un lycée huppé pour filles.
Personnellement, j'estime que tout ceci est une grosse erreur, mais je vais devoir m'en accommoder.
Oli Barrett, assistante coach.
Marvin Korn, vous avez des conseils?
Un jour, ces filles dirigeront la planète.
Tout le monde en place.
Certaines s'y voient déjà.
Tu mâches un chewing-gum?
Si, c'est Westbrook. Nous, on n'est pas trop ambiance marche ou crève.
Mon travail en tant qu'entraîneur est de vous aider à vous améliorer.
Je vais vous réapprendre le basketball méthode Marvin Korn.
Plus petit les pas, mais plus rapide.
En fait, c'est vraiment nécessaire, le sifflet?
Absolument.
Ok. Je me doutais que ça serait dur, mais là, c'est un autre niveau. On arrête tout le basket et ils le renverront. Oh, ça ferait un super boomerang. On peut le refaire? Vous avez créé un lien avec ces filles.
Oh non, pitié.
John Fitzgerald Kennedy, il a dit, nous allons faire ça. Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile.
Mais il parlait de la Lune.
Big Shot, une série sportive et ironique créée par Dean Lorey, Brad Garrett et David A. Kelley. David A. Kelley, est-il besoin de le rappeler? C'est le papa d'Ali McBeal, de The Practice, mais dernièrement également de The Undoing et Big Sky, avec dans les rôles principaux John Stamos, que l'on a vu dernièrement dans Scream Queens et You, à ses côtés Nell Variake et Jessalyn Gisling, qui figurait au générique de Glee. Le basket, vous avez fait presque carrière, Benoît. Oh, hein, vous avez dû arrêter à cause d'un petit doigt foulé, et c'est vraiment injuste. Qu'avez-vous pensé de Big Shot?
Mais voilà le genre de série que j'aime bien, pour plusieurs raisons. J'aime bien ce genre de série parce que je retrouve le plaisir de ces séries des années 90 qu'on pouvait regarder en famille. Et d'ailleurs, je vous raconte ma petite vie privée, mais tous les vendredis, en famille avec ma fille de 12 ans, on regarde un épisode de Big Shot, et c'est le hit pour elle. Et je comprends pourquoi ça lui plaît, parce que moi, typiquement, dans les années 90 aussi, quand je regardais ce genre de série, j'avais hâte de retrouver l'épisode d'après. C'est plutôt bien écrit dans le style très grand public, très populaire, très facile, rien d'étonnant. Bien évidemment, je préfère chez David E. Kelley deux ses séries des années 90, Picket Fences qu'il avait pu écrire, ou encore Ally McBeal. Ou Boston Public, et qui m'a fait beaucoup penser à ça parce que c'était déjà dans l'univers.
La filmographie de David E. Kelley, il écrit 3 séries par an. Mais concentrons-nous sur la nouvelle.
Donc on est dans la série familiale autour de ce personnage, interprété par John Stamos, ex-oncle Jesse de La Fête à la Maison, et c'est plutôt La Fête à la Maison. Donc quand je regarde cette série, Jessalyn Gisling,
je veux pas en parler, hein.
Pourquoi je cite tout ça, c'est parce qu'en fait c'est de la série pour pure sériephile de fan de télé, c'est-à-dire que on choisit un casting John Stamos, Jessalyn Gisling, parce que ça raconte quelque chose de série qu'on a vu avant, et donc on prend plaisir à se plonger dans cet univers. Pour ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu toutes ces choses-là et qui découvrent cette série en se disant, je vais regarder une série moderne, waouh, waouh, bah non, passez là votre chemin, parce que c'est quelque chose d'ultra déjà vu, mais qui fait plaisir quand on allume la télé une fois par semaine.
Christine Haas, maintes fois vue, maintes fois lue, maintes fois subie.
Malheureusement, c'est tout ce que je déteste.
C'est la série de télé.
Pardon, Benoît, c'est vrai qu'il y a beaucoup.
Pas passé votre vendredi soir chez Benoît Lagarde.
Il y a beaucoup d'histoires de coach en ce moment, mais enfin, cette série n'a ni l'humour, ni l'efficacité, ni la folie d'un Ted Lasso dont Benoît nous a beaucoup parlé. Mmh. Alors, on est chez Disney, effectivement, donc la morale de l'histoire est positive et va finir par bousculer l'image sexiste du sport. La stratégie sportive va rester une métaphore de la vie, c'est un apprentissage, c'est aussi une rédemption. Bon, moi, je suis carrément surprise d'apprendre que ça a été signé par David E. Kelley. Qu'est-ce qu'il a foutu, franchement? Les filles sont plutôt bien, les rôles d'adultes sont franchement schématiques. Stamos passe un peu vite de la colère au chouchou de ses demoiselles, et en 5 épisodes, franchement, l'arc narratif est réduit à sa plus simple expression. Hein. Grâce à lui, elle joue mieux, grâce à elle, il s'humanise. Hein. Point. Donc, ça aurait pu être un peu plus intéressant.
Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on est d'accord.
Hein, ça aurait été plus intéressant si les personnages étaient un peu développés, mais tous n'ont qu'un seul problème, celui d'un papa. Celui du papa. On a celui du coach qui était clairement un personnage abusif. Lui-même ne s'occupe pas très bien de sa fille. Et puis, chez ses joueuses, il y a celle qui a perdu son papa. Il y a celle qui rêve d'impressionner son papa. Celle qui préférerait un papa plus riche. Bref, les mamans sont inexistantes. Hein, même celle de l'héroïne qui est partie travailler en Italie. Je ne vois pas comment ils vont nous captiver plus sur 10 épisodes. Il y a un épisode néanmoins qui m'a vraiment intéressé, c'est celui qui évoque les opportunités dont bénéficient les athlètes de haut niveau, qui sont démarchés par les écoles, les universités, à qui on offre une bourse, une voiture, des vacances payées avec une surenchère absolument incroyable qui n'existe qu'aux États-Unis. À part ça, Berk.
J'adore Isabelle Danel.
Ouais, ben pardon, Benoît, mais moi je suis très embêtée et je suis très inquiète pour David E. Kelley que je vénère comme vous savez, puisque j'ai déjà de nombreuses fois dit mon grand amour pour ce monsieur. Et là, depuis qu'il est entré dans l'écurie Disney. Ben, je sais pas, parce que Big Sky, on l'a défendu, et vraiment, je reviens pas sur ce que j'ai dit, je trouvais ça vraiment très bien, mais là, Big Shot, on dirait un gros gâteau spongieux et trop sucré, et Je me demande ce qu'il va faire après. C'est quoi ces big bisous? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je
veux dire, c'est, il est dans la série des bigs. Oui, là, il est...
Non, mais surtout, ça va être de plus en plus gnangnan, quoi. Donc, c'est pas désagréable, hein. Ça joue bien. Moi, je te trouve un peu sévère, Christine, parce que je trouve que les acteurs font le job. Après, ils sont, effectivement, il y a qu'une note pour chaque personnage. Donc, on s'épuise vite. Mais pas eux. Je trouve qu'ils s'en sortent à peu près bien. Et je voulais citer aussi la jeune Emma, qui est donc la fille du coach, qui est jouée par Sofia Mitrichloss, et que je trouve très intéressante, qui est une gamine qu'on a vue dans des séries. Alors, il y en avait une sur le football la dernière fois, là, maintenant, elle est au basket, mais qui est une comédienne très intéressante, et je trouve que c'est un des personnages les mieux écrits, parce qu'elle a vraiment une espèce de présence, une répartie, beaucoup d'humour, ce qui n'est pas le cas, quand même, de la série, à part ce qu'on a entendu dans la bande-annonce, la phrase de Kennedy, qui était pour aller sur la Lune, qui est le seul truc qui m'a fait rire dans la série. Je trouve que c'est un peu problématique parce que tout est programmatique, c'est téléphoné, on n'a aucune surprise. On sait exactement ce qui va se passer. On sait aussi comment, parce que la mise en scène est vraiment totalement fonctionnelle, ouais, mais sans plus. C'est du pilote automatique. Voilà, pardon, David et Kelly, ben il a mis juste son nom parce qu'il y a deux autres créateurs qui sont des créateurs de l'écurie Disney, donc clairement lui, il a vraiment rien foutu. C'est voilà,
reconnaît sa marque partout.
C'est sa marque. Mais voilà, dialogues. C'est le Lustucru des séries télé. Voilà, il nous a fait un plat de coquillettes avec son beurre à sa façon. Bonsoir, quoi, franchement.
Ce sera la phrase du débat. La série, il lui suis cru. Moi, j'aime bien le personnage de la proviseur qui a les meilleures répliques, parce qu'elle les a réécrites dans son coin, qui est Bitch. Garce à souhait.
Oui.
Mais tout ça stagne, effectivement. On a l'impression d'une série montée à 42 minutes alors qu'il y a à peine de quoi nourrir une sitcom. Et il y a un moment, ça se voit. Le débat est clos. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Big Shot sur Disney+. Well, you flew to New Orleans to rent a car and to see your friend, to put him in the hospital again. In the back, on the second floor, right across from the radio bar, no food in the fridge, I guess things had gone too far. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast. Did man invent his illnesses? Were fundamentally unstable. Mother Mary shrine hiding under the table. In your blue silk robe, burning cigarettes, dreaming of your soul. Medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Oh, all things come and all things pass, but takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes par Nick Waterhouse, extrait de Promenade Blue, dernier album en date de ce chanteur de 35 ans. Ça ne s'entend pas quand on entend sa chanson, qui adore se replonger dans les racines et la mémoire du blues des années 50. Mieux qu'un hommage, c'est une réappropriation brillante, personnelle et inspirée.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment tant attendu de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et aujourd'hui, en écho à l'actualité en Israël, vous revenez sur Le Serment, la mini-série de Channel 4, écrite et réalisée par Peter Kaspinski.
Oui, les tensions entre Israéliens et Palestiniens de plus en plus vives, hein, depuis quelques jours, sont en train de conduire à la pire escalade de ces dernières années entre le Hamas et l'État hébreu. Il faut dire que ce conflit israélo-palestinien mine l'histoire géopolitique du monde depuis plus de 70 ans. Une histoire donc complexe où les deux camps ne cessent de s'affronter, au point qu'aujourd'hui on ne sait plus comment cette histoire a pu démarrer. Et c'est justement ce point d'entrée dans l'histoire récente du Proche-Orient qui a inspiré une des grandes figures de la télévision anglaise, Peter Kosminski. Peter Kosminski, il est né en 56 dans une famille juive londonienne et il s'est d'abord fait un nom comme documentariste, puis reporter de guerre. Et enfin, comme scénariste et réalisateur de fiction engagé. Alors, on se souvient entre autres de lui, sa mini-série qui n'était pas tendre sur la génération travailliste de Tony Blair, c'est The Project. Les années Tony Blair, Warriors, un film sur des casques bleus en Bosnie, ou encore The State en 2017, centré sur de jeunes Britanniques qui partent faire le djihad. C'est lui aussi qui avait coécrit avec Raoul Peck la série française sur les coulisses de l'ENA, l'école du pouvoir, centrée sur la promotion Voltaire de François Hollande, Dominique de Villepin ou Ségolène Royal, une série d'ailleurs qui serait intéressante aussi à revoir au vu de l'actualité.
Absolument.
Eh bien, dans Le Serment, il y a 10 ans, la série était passée sur Channel 4 en mars 2011, et un an plus tard sur Arte, Peter Kosminski s'intéressait au voyage en Israël d'une jeune étudiante, Erin, interprétée par l'excellente Claire Foy, bien avant qu'elle incarne la jeune Elisabeth dans les premières saisons de The Crown. Erin décide de se rendre sur place après être tombée sur des notes de son grand-père et découvre qu'il avait fait partie des forces de maintien de la paix en Palestine en 1945.
Alors, la série qui joue sur les flashbacks entre 1945 et les années 2000 tente de raconter l'histoire de la création d'Israël quelques années avant sa naissance en mai 1948.
Oui, et une reconstruction de l'histoire non sans polémique, effectivement, lors de la diffusion, si la qualité de la série a été unanimement louée. Sur le plan de la véracité historique, plusieurs historiens ont jugé cette mini-série partisane. Effectivement, lors de la diffusion, l'historienne spécialiste de la Shoah, Annette Wiewórka, ou encore Sami Cohen, du Centre d'études et de recherche international de Sciences Po, interrogé par La Croix à l'époque, a relevé qu'il y avait quelques imprécisions ou erreurs historiques. Une analyse qui aura sans doute un peu contrarié Peter Kosminski, qui dans une interview pour l'Humanité rappelait qu'il serait, je le cite, très attristé si quelqu'un devait considérer sa série comme partisane, et ajouter « Nous nous sommes battus avec l'aide des juristes pour vérifier très méticuleusement que le film soit équilibré. Mais équilibré pour moi ne signifie pas que chaque scène est équilibrée, mais que prise dans son ensemble, la série est équilibrée. Si vous lisiez le résultat des recherches, vous le verriez. J'ai interviewé 82 survivants du déploiement britannique en Palestine. » Et leur conclusion était absolument claire et sans équivoque. Ils étaient arrivés très pro-juifs et sont tous partis très pro-arabes. Pour en savoir plus, alors j'ai mis les deux articles sur le site de l'émission. Mais moi, ce qui m'intéresse au fond, c'est que cette série construite à partir de véritables témoignages, il ne faut pas la regarder comme un document historique, mais bien comme une fiction qui éclaire finalement beaucoup sur ce conflit sans fin qui oppose Israéliens et Palestiniens. Il est intéressant de la voir ou la revoir. D'ailleurs, elle est disponible en DVD chez Studio Canal, je crois, pour mieux saisir comment l'histoire d'Israël et de la Palestine est un triste et perpétuel recommencement. L'occasion aussi de découvrir l'histoire de l'extrême droite israélienne et de la politique de colonisation de villages et terres palestiniennes durant les dernières années du mandat britannique, juste avant l'indépendance de l'État d'Israël. C'était le 14 mai 1948, il y a 73 ans, quasiment jour pour jour.
Merci beaucoup, cher Benoît, pour cet effet miroir, une chronique que vous pouvez réécouter en podcast ou tout à l'heure dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Vous êtes bien sur France Inter dans une heure en série avec ce soir Isabelle Danel, Christine Haas et Benoît Lagan. Troisième et dernier débat pour ce soir, Fleming, mini-série britannique de 4 épisodes, disponible jusqu'au 25 juin sur arte.tv. Durant la Seconde Guerre mondiale, Ian Fleming, brebis galeuse de sa famille, se retrouve enrôlé malgré lui dans les services secrets. Ironie du sort pour cet homme fringant, assez peu discret, totalement rétif à toute forme d'autorité et bien plus intéressé par écluser les barres et trousser la gente féminine que s'engager pour défendre sa patrie. Mais cette expérience, dont il sortira avec les honneurs, lui servira d'inspiration pour créer un petit personnage d'espion de Sa Majesté avec lequel il partage un même handicap au golf, un goût immodéré pour la vodka martini au shaker et une passion peu monogame pour les femmes. Vous l'avez reconnu, Bond, James Bond.
Tu en as pour longtemps ?
Je sais ce que tu fais. Tu n'arrives pas à te faire à l'idée que tu es mariée, alors tu te venges sur cette pauvre petite machine. Charmant ? Ce Bond est tout Dieu. Je ne le supporte pas. C'est un sadique et une brute.
Je croyais que c'était ton genre d'homme. Alors, c'est quoi le verdict ?
C'est de la pornographie. Il n'y a pas d'autre mot.
Ravi que ça te plaise. D'ailleurs, je pensais te le dédier.
Sûrement pas. Tu plaisantes, j'espère.
Oh, je t'en prie, c'est pas de la littérature. C'est alimentaire, des mots et rien de plus. Un monde imaginaire.
Sans blague. C'est sans doute pour ça qu'il aime aussi le golf et la vodka.
Il n'est pas moi.
Celui que tu rêves d'être ? Ton double inconscient ? Est-ce que c'est ce qu'il est ?
Pas exactement.
Alors qui est-il ?
Réponse dans Fleming. 4 épisodes d'une série signée John Burlow, à qui l'on doit la série Miniaturiste, ainsi que Don McPherson, scénariste sur le très oubliable film Chapeau melon et bottes de cuir. Avec dans le rôle titre le très sexy Dominic Cooper, que l'on a vu dans Preacher. Ah, je vois qu'Isabelle, non ?
Bravo.
Vous cautionnez ?
Non, je ne cautionne pas.
Très bien, on ne partagera pas. Lara Pulver, vue dans MI5, Leslie Manville, vue dans The Crown, et Rupert Evans, vue dans The Man in the High Castle. Du coup, c'est à Christine que je vais passer la parole.
Mais voilà. Oui. C'est vrai que tout ce que j'écris a un fond de vérité, nous dit Fleming, dont la tendance à l'exagération fait de lui un narrateur assez peu crédible, il faut le dire. Alors, il a beau avoir expérimenté quelques-unes des aventures de Bond, ça n'en fait pas un homme particulièrement fascinant. De fait, on a même souvent envie de gifler ce playboy irresponsable qui ment pour cacher son incompétence, se moque du coup de la vie d'autrui, mais impressionne sa hiérarchie par son ingénuité, ses talents de stratège, son imagination hors norme, qui impose des scénarios de bataille, il faut quand même le dire, complètement farfelus. Alors, quelques scènes de tension et d'action sont presque dignes de James Bond, mais alternent avec des moments complètement ridicules, des scènes de sexe poussive, où on quitte franchement la série d'espionnage pour basculer dans le soap. Tout ce qui en fait constitue le sous-texte de Bond devient le sujet de Fleming. Pourquoi Bond a-t-il tant de mal à accepter l'autorité ? Parce que Fleming refuse d'obéir à sa maman tyrannique. Pourquoi Bond est-il si sûr de lui ? Parce que Fleming n'a pas confiance en lui. Pourquoi Bond ne pratique pas la monogamie ? Parce que le mariage des parents de Fleming cache un mensonge. Donc Bond, en fait, c'est l'incarnation du conservatisme, la célébration de l'idéologie occidentale au service d'intérêts impériaux, de valeurs patriarcales, mais il est sexy, suave et coquin.
Ah, vous êtes d'accord ?
Bond, en fait, est une version augmentée de Fleming, débarrassé de ses insécurités pour devenir un espion hyper entraîné, un mâle irrévérent et une machine à séduire les femmes. Et en ce sens, on peut dire que Dominic Cooper fonctionne assez bien dans le personnage de Fleming, précisément parce que jamais il ne pourra avoir la puissance nécessaire pour incarner le vrai Bond. Il reste une version incomplète de l'archétype masculin qui, pour moi, était incarné par Sean Connery.
Mais je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, même si reconnaissons que Daniel Craig a très bien fait le job sur les 4 derniers James Bond. On attend le 5e pour 2023-2024, je ne sais plus quand il est programmé. Isabelle, nous ne sommes pas d'accord sur Dominic Cooper, mais en revanche, vous avez vu d'autres lignées de la tête à l'évocation des scènes poussives de sexe. Bah, où visiblement, ça vous a émoustillé.
Ah non, ça ne m'a pas émoustillé. Il y a une scène de sexe que je trouve à la limite du viol et que je trouve très désagréable à regarder, en l'occurrence.
Ah, très bien, alors expliquez-nous ça.
Voilà, je trouve que d'abord, l'idée de faire de Fleming le reflet de Bond ou le futur, le possible, la possible image de Bond, c'est très très réducteur et c'est pas très intéressant et surtout c'est faux. Et donc, ça me pose un vrai problème tout au long.
Parce c'est le principe de la fiction.
C'est le principe de la fiction, mais la moindre scène est moins intéressante que le plus mauvais des James Bond, donc c'est quand même un peu problématique d'essayer d'atteindre ce personnage sans jamais l'approcher, sans jamais lécher autre chose que ses soquettes, quoi. Je veux dire, à un moment donné, moi, ça me pose un vrai problème. Je trouve effectivement que Dominic Cooper a pas les moyens à hauteur du personnage qui pourrait être effectivement flamboyant et qui pourrait avoir une espèce de style et de faconde et tout me dérange, et surtout les mensonges me dérangent beaucoup, le peu qui pourrait être intéressant parce que c'est sauvé par des actrices. Vous avez cité Leslie Manville, on dirait qu'on a photocopié 12 fois la même scène. Elle arrive, elle est pas contente, tu as dit maman pas contente, effectivement maman pas contente, mais c'est Leslie Manville, donc elle en fait quelque chose et du coup ça fonctionne. Mais je trouve qu'il y avait moyen de faire de cette série quelque chose de vraiment intéressant en étant beaucoup plus nuancé, en n'essayant pas de faire du James Bond, mais en étant beaucoup plus nuancé, alors que là, il y a plein de passages obligés. Il y a, ça commence par le générique avec la chasse dans le sous-marine avec une jeune femme en bikini. Il y a des titres de films qui sont explicites. Il y a donc toutes ces scènes et à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Et donc la scène dont je parlais, la scène de sexe. Effectivement, il nous est clairement dit que la dame aime plutôt la manière forte, donc pourquoi pas. Mais franchement, je trouve que c'est filmé, et la série date de 2014, je pense que vraiment, aujourd'hui, on peut pas filmer ça comme ça. Il y a façon et façon. Et là, pour moi, c'est très désagréable à regarder. Donc, c'est pas la question d'être émoustillé ni quoi que ce soit, c'est très désagréable à regarder.
Benoît, moi, j'ai pas trouvé ça désagréable à regarder ces quatre épisodes. Peut-être que la mécanique en queue uniquement quatre épisodes fait que il y a tellement de choses que la série, si elle avait été plus longue, aurait pu développer sur justement la psychologie du personnage qui est un peu vite traitée, effectivement. Mais moi, j'aime bien cette idée, et à aucun moment je me suis posé la question de la véracité de ce que je voyais.
Mais moi non plus.
Dès le départ, on nous dit que ce personnage s'imagine en James Bond dans tout ce qu'on va voir. C'est son pur fantasme. Et ce que j'aime, c'est la façon dont, dans la série, ils reprennent en permanence des choses qu'on a vues dans les films, sauf que la chute est toujours raté, c'est-à-dire qu'ils font du ski, ils font du ski super bien comme dans un film à la James Bond, sauf qu'ils se cassent la gueule. Il est toujours en train d'essayer de faire des choses et puis finalement ça rate au fond. Et moi c'est ça que j'apprécie et c'est presque très second degré en fait comme lecture qu'il faut avoir sur cette série. Alors j'en conviens, je trouve qu'on ne pourrait plus aujourd'hui tourner les scènes pseudo-érotiques, voire limite de la série aujourd'hui effectivement, parce qu'elles sont, on le voit vraiment machiste.
Mais comme toutes les scènes de James Bond.
Oui, c'est comme impossible. Mais sauf que le second degré.
Ils ont arraché des baisers à des femmes qui ne sont pas du tout consentantes.
Oui, bien sûr. Sauf que je pense que le second degré qu'ils arrivent à mettre sur des scènes d'action, par exemple, sur ces scènes-là, aujourd'hui, ils les feraient autrement. À l'époque, je peux comprendre ce qu'ils ont voulu aussi démontrer en les tournant comme ça. Voilà. Je suis plutôt emballé au fond par les quatre épisodes. J'aurais peut-être aimé en voir plus, avec des réserves, effectivement, sur deux, trois approches un peu bizarres.
Ça vous dérange pas qu'à bout d'arguments et d'idées, à la fin des quatre épisodes, il fasse semblant de faire un faux suspense sur est-ce que Fleming et Anne O'Neill vont oui ou non convoler, alors que la série commence par leur mariage? Ça vous dérange pas, vous? Je veux dire, ça tire à la ligne de façon évidente et ça sert à rien.
Bon, écoutez, voilà, on n'arrivera pas à vous réconcilier, je suis désolé, mais j'ai encore un peu besoin de temps pour terminer l'émission. Donc c'était Fleming, l'homme qui voulait être bon, disponible sur Arte TV jusqu'au 25 juin.
Cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold.
his lies can't disguise what you feel. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves gold.
Ça fonctionne toujours aussi bien. Goldfinger, Shirley Bassey, des cuivres et des cordes qui signent une intro aussi célèbre que l'espion 007, la voix de Shirley Bassey, rock et sensuelle, furieusement jazzy et soul, accompagne l'un des génériques les plus mythiques de la saga de l'espion, de sa très gracieuse majesté. Bassey est à jamais et presque injustement, tant sa carrière fut prolixe, liée à James Bond, dont elle interprétera à nouveau la chanson-titre pour les films Diamonds Are Forever et le très oubliable Moonraker avec Michael Lonsdale, néanmoins.
France Inter, une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé, que vous soyez le vendredi soir chez les Lagan ou n'importe quel autre soir de la semaine avec qui vous voulez. Qu'est-ce que nos chroniqueuses vont nous conseiller ce soir? Isabelle, vous attirez notre attention sur A Million Little Things. J'avais interdit les titres anglais pourtant.
Ben oui, pardon.
Ouais, merci. A Million Little Things sur Salto.
Oui, parce que pour moi, dans la catégorie série doudou, c'est le pompon, le Graal, la queue du Mickey. A Million Little Things,
c'est... La queue du Mickey, c'est un trauma.
Et ben moi, je l'ai attrapé en regardant cette série parce que c'est une dramédie, une série sur une bande de copains, Barry, Eddie et Gary, endeuillés par le suicide de l'un d'eux, John le plus structuré, celui qui avait la plus belle vie, la plus belle épouse, les plus chouettes enfants, et bien sûr, personne ne comprend son geste. Mais il y a sans doute plusieurs explications et aussi des secrets, des omissions, des trahisons, des erreurs qui vont alimenter les rebondissements en rafale nourrissant chaque épisode. Ces hommes ont tous des femmes, sauf le célibataire de la bande qui a des copines. Certains ont des enfants, d'autres pas. Et ils ont toutes et tous un cœur énorme et ils s'aiment. D'autant plus qu'ils se sont choisis. Et ils sont humains, follement humains, alors ils se serrent les coudes, éteignent chaque feu qui s'allume et courent en tous sens pour aller consoler l'un d'entre eux, qui pourtant est inconsolable. Et il se pardonne des choses impardonnables en se faisant des câlins, en organisant des soirées pizza ou en chantant des chansons. Il y a une bande d'acteurs que j'adore. Mes chouchous, c'est Alison Miller, vue dans 13 Reasons Why, James Roderick Rodriguez, vue dans Enquêteur malgré lui, et Romani Malco dans Weeds. Et il faudrait tous les citer parce qu'ils sont brillants, versatiles, ils ont un tempo singulier et ils égrènent en une espèce de ping-pong incessant les meilleures répliques qu'on ait entendues dans une série grand public depuis, allez, on va dire, Ally McBeal.
Ça remonte à loin.
Ben oui, ça s'avale en un rien de temps, comme une poignée de bonbons, c'est un peu trop sucré, et même sans doute un poil chimique, mais c'est pour ça que c'est bon, c'est pour ça que c'est addictif, et on peut pas s'empêcher d'en reprendre, parce qu'on rit, on pleure, et des amis comme ça, avec un si joli sens de la répartie, et des liens tissés si étroits que rien ne peut les distendre, on a envie d'en avoir.
Et vous nous avez convaincu, A Million Little Things sur Salto. Christine, Une famille à Jérusalem, les Ch'tizel sur Netflix.
Snabakash,
pardon, autant pour moi, la semaine prochaine. Snabakash, allez-y.
Oui, Snabakash, argent rapide, 6 épisodes suédois qui cartonnent sur Netflix. Hein, ce thriller fait suite à la trilogie Stockholm Noir de Jens Lapidus, qui fut un petit succès de librairie, a donné lieu à 3 films sortis sous le titre Easy Money. 10 ans plus tard, donc, il crée une nouvelle histoire avec les mêmes ingrédients, à savoir des personnages prêts à tout pour réussir, mais centrés cette fois autour d'une femme célibataire d'origine kurde. veuve d'un trafiquant de drogue qui rêve de créer sa propre start-up mais se voit contrainte d'utiliser de l'argent sale. Elle va croiser un chanteur séduisant dont la carrière couvre une activité plus inquiétante d'homme de main pour la pègre, et à travers finalement les coups bas, les trahisons et même les meurtres, on va découvrir que les investisseurs opportunistes du monde de l'entreprise sont aussi déplaisants que les dealers engagés dans leur impitoyable guerre des gangs. On est en fait dans deux versions extrêmes d'un capitalisme sans foi ni loi qui divise le monde entre les exclus et les gagnants. Toutes ces questions du déterminisme social vont se dérouler dans un Stockholm moderne et vont s'appuyer sur un récit qui nous tient en haleine entre des scènes d'action impressionnantes de nervosité, filmées caméra à l'épaule, des moments intimistes d'émotion à travers des relations familiales et amoureuses. C'est plutôt bien calibré, rythmé par des rappeurs scandinaves comme Cuz et Moana. Et au final, le récit va s'équilibrer adroitement entre les pertes et profits et offrir une conclusion douce amère, laissant la porte ouverte à une saison 2.
Excellent plateau télé. Merci Snabakash sur Netflix. J'ai un peu devancé l'appel.
Oui, mais c'est
dans
15
jours.
La prochaine fois.
Absolument. La semaine dernière, nous accueillons à ce micro Malo Morcel. Comme ça s'est très bien passé, je lui ai proposé de nous refaire une chronique DVD et vous évoquez cette semaine la sortie en DVD de La Guerre des Mondes. Alors attention, vous allez nous expliquer que ce n'est pas la série de Canal, que nous n'avions pas traité en débat, effectivement. C'est une occasion pour vous et pour nous de nous rattraper. Donc La Guerre des Mondes, sortie chez ITV Studios.
Alors en effet, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une série, La Guerre des Mondes, sortie sur les écrans britanniques, sur la BBC, puis repris par TF1 en prime time. La Guerre des Mondes, c'est originellement une œuvre littéraire de H.G. Wells, sortie en 1898, et qui a été adapté à de maintes occasions sur les écrans, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Cette adaptation fidèle de la BBC nous raconte l'histoire de George, journaliste, et d'Amy, couple illégitime puisque non marié, lui étant encore marié officiellement avec sa cousine. Le couple illégitime tente de joindre les deux bouts avec les quelques piches qui sont accordées au jeune homme, jusqu'au jour où de mystérieuses sphères provenant de la planète Mars s'écrasent sur Terre. Alors ce qui différencie cette adaptation des autres séries ou des films ayant traité de cette œuvre, c'est que c'est une série qui reste ancrée dans l'époque où se déroule le livre, soit en 1905, mais qui sait aussi traiter de questions contemporaines, comme l'émancipation de la femme, le statut qu'elle possède dans la société victorienne, toutes les questions qui tournent autour de l'environnement, et le tout avec une subtilité qui ne tombe jamais dans la revendication ou bien le combat politique exacerbé. Donc c'est une mini-série en 3 épisodes, donc vraiment on les binge-watch très facilement avec un très grand plaisir. On a une petite déception sur les bonus, mais bon, on a quand même un bonus de qualité de Alain Carazé. Donc n'hésitez surtout pas à visionner La Guerre des Mondes made in BBC.
Merci beaucoup, cher Malo. Une heure en série, c'est fini. On est un petit peu en retard, donc je vais accélérer le mouvement. Mille merci à vous, Christine, Isabelle, Malo et Benoît, d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Pour mémoire, nous vous avons recommandé ou pas Mare of Eastern Zero CF Big Shot sur Disney+ et Fleming sur Arte. La semaine prochaine, nous évoquerons The Underground Railroad sur Prime et Jupiter's Legacy sur Netflix. Rendez-vous demain soir à 20h avec Jérôme Garcin pour un masque à la plume consacré au 7e art. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion donc tout à l'heure à 2h du matin. Il y a un site internet, un courrier, un compte Instagram, désormais une heure en série officielle. L'émission a été réalisée comme chaque semaine par Marie-Annick Rimbaud, programmée musicalement par Muriel Pérez. J'ai préparé cette émission avec Amel Kaldi et ce soir, à la technique, Loïc Frapsos.